Voilà.
Voilà.
Merci Hubert. Auriez-vous des réflexions à proposer? Nous ouvrons. La réflexion viendra peut-être au fur et à mesure des temps. Voilà. Alors, selon notre tradition, qui est une tradition, je crois, de pas mal d'institutions, il vous revient de solliciter votre patience en vous présentant un discours d'ouverture. Pour rien vous cacher, je l'ai rédigé aux îles de Lérins, il y a quelques jours. Vous savez ce que sont les îles de Lérins. Eh bien, c'est le lieu de ce qu'on pourrait appeler le mont Athos de l'Occident, qui recela toute la tradition monastique entre le IVe siècle avec saint Honorat jusqu'au 8e, 9e siècle, à travers des hommes qui n'étaient pas présents que Lancassien, qui s'est affronté à Marseille, voilà, et qui a donné une pléiade de moines et d'évêques saints à travers la France. Alors en particulier un qui a fait ses armes monastiques à Lérins, c'était saint Patrick d'Irlande. Ils ne le disent pas, les Irlandais, parce que ça porterait préjudice, disons, à la beauté et à la souveraineté de l'Irlande. Voilà. Mais Saint-Loup de Troyes, par exemple, il est un ami de Saint-Germain d'Auxerre, ils étaient tous là, et Saint-Loup de Troyes, il avait une telle réputation qu'on l'appelait l'évêque des évêques. Voilà. Voilà. C'était une période glorieuse, disons, de la vie chrétienne dans les anciennes Gaules, et dont nous sommes un peu les héritiers. Alors, il m'a semblé bon de vous proposer quelque chose qu'on ne traite guère dans les instituts de théologie, même s'il m'est arrivé de m'y risquer il y a quelques années, et c'est de vous, non pas de résoudre, mais de proposer quelques notes sur la place de la femme dans le monde et dans l'Église. Vous savez que c'est un peu un lieu commun maintenant, qui court un peu les institutions chrétiennes sur, justement, réponse à donner. Et je me souviens, une de nos ancêtres, Madame Bersiegel, s'était emparée du sujet, sachant, c'est pas très gentil de ma part, qu'elle pouvait trouver de la manne dans cette question-là et qu'elle n'aurait pas besoin de creuser énormément la situation avant de mourir parce que c'était un sujet insoluble. Voilà. Je l'ai rencontré d'ailleurs sur ce sujet-là. Enfin, paix à son âme, c'était une âme de grande qualité. J'aurais dû, le titre étant celui de Notes sur la place de la femme, rajouter pour servir à l'appréciation de la pensée divine pour le monde dans l'univers contemporain, afin de ne pas être abstrait, où l'Occident se trouverait au centre, et aussi à l'accomplissement du projet divin. Parce que pour parler de la femme, disons de manière un peu essentielle, eh bien il est nécessaire de se référer à la pensée divine, Dieu créateur. J'ai entendu questionner le nouveau pape François sur ces questions-là, dans les quelques questions qu'on lui posait. Alors il a dit « Rendez-vous plus tard ». Parce que nous, à Rome, n'avons pas encore de réflexion suffisante. C'est intéressant comme réponse, voilà. Alors, nous n'avons pas peut-être beaucoup plus de réflexion que l'Église de Rome, mais apportons des matériaux avant de pouvoir écrire un texte comme ça qui serait suffisant pour pouvoir être publié. C'est pour ça que je vous propose des notes. Pour entrer en matière, nous avons besoin de principes pour pouvoir nous exprimer. C'est-à-dire pour nous diriger vers cette place de la femme, en dehors de toute appréciation vraiment subjective qui se baserait sur cette expression que vous connaissez, l'éternel féminin. Vous connaissez ça, on rencontre cette expression chez un certain nombre d'auteurs, mais que, disons, je ne connais pas bien. Alors posons quelques bases d'accès. La première, c'est que ce que je vais vous dire, voudrait servir à un essai de progresser sous le regard de Dieu dans la science sacrée. En particulier à notre époque, où la science profane, qui est souvent, comme disait l'évêque Jean, une icône instrumentale de notre paresse spirituelle, la science profane tient le haut du pavé. Et la science profane, c'est une science pour l'homme et par l'homme, et non une science vers Dieu, qui elle, on peut appeler la science sacrée, et qui elle, la science actuelle, c'est la science du profane. Ce n'est pas un terme péjoratif de dire le profane, mais parce que, comme disait Maxime Kowalewski, le sacré et le profane ont le même domaine, mais ne sont pas le même regard. Voilà. Alors, c'est la première chose, et un essai de science sacrée. Par ailleurs, deuxième principe que nous pouvons accepter, c'est que notre vie est intimement soudée à Dieu. Dieu, c'est la divine trinité. Monseigneur Jean disait une chose vigoureuse, il disait, tout est prévu dans le bien par le Père. Tout est rendu possible dans le bien par le Fils, et tout est réalisé dans le bien par le Saint-Esprit. Ceci peut être vrai de trois manières, me semble-t-il. Première chose, notre vie est liée à Dieu, comme Fils de Dieu. D'une part. Elle est liée à Dieu aussi, comme serviteur de Dieu. Et puis elle est liée à Dieu également, comme créature de Dieu. Mais ces trois registres distincts, dans le premier cas, c'est-à-dire le cas où nous sommes fils de Dieu, Dieu est Père. Voilà, c'est l'ambiance chrétienne et juive sous certains aspects. Dans le deuxième cas, où Dieu est maître et nous sommes serviteurs, à ce moment-là, Dieu est maître, c'est l'atmosphère de l'islam, et de certains aspects, et du christianisme d'ailleurs, et de la tradition juive. Et dans le troisième cas, c'est-à-dire où Dieu est, notre vie est liée à Dieu en tant que nous sommes créés, nous sommes des créatures, Dieu est créateur, c'est la vie de tout le reste dont je n'ai pas parlé souvent de ce qu'on appelle le paganisme. Prenons un exemple. La Genèse biblique, c'est-à-dire la révélation, passée par l'Écriture, est sous-tendu par ces trois registres, fils de Dieu, serviteur de Dieu et créature, ou bien Dieu est père ou maître ou créateur, qui se déroule dans l'histoire dès l'origine, c'est-à-dire au-delà même de l'histoire, plutôt de la manière suivante. L'homme a une vie de créature, à l'origine, l'homme est une créature. Dieu crée, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. L'homme a une vie de serviteur au milieu des temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve au milieu des temps? Eh bien, une réponse de l'homme, créature, à Dieu, qui l'a placé comme la couronne de la création. Et l'humanité a une vie de fils, à l'aboutissement surtout, des temps où il s'en va vers l'intimité divine. Alors, lorsque Dieu est Père, il lui faut, et c'est une partie de réflexion des gens, si nous avons la conception de Dieu Père, et nous en avons la révélation par le Christ, il lui faut être immanent au cœur de l'homme, présent. Sinon, c'est un tyran. C'est pas un Père. Et il est simultanément transcendant. C'est la première chose qu'on doit retenir. Si Dieu est maître, il lui faut être simplement immanent à l'existence. Et si Dieu est créateur, il lui suffit de vouloir et puis de donner la vie sans partage. C'est-à-dire, Dieu le créateur ne nous a pas demandé notre opinion. Quoique, on pourrait quand même aller chercher à l'origine que Dieu a quand même demandé à l'homme et à la créature si elle voulait bien paraître. Relisez chez Saint Grégoire de Nazianze, et Hubert vous donnera tout, les réflexions, parce qu'il est ami de Saint Grégoire de Nazianze, vous savez. Nous avions un homme remarquable dans notre église, il s'appelait Emmanuel Ponsoir, vous vous souvenez de lui? Alors il a traduit Maxime le Confesseur sous toutes les coutures. Et après, dans toute sa vie, il disait « Mon ami Maxime dit que… » Et Hubert dit « Mon ami Grégoire dit que… » Voilà. Alors, lui, il dit que Dieu, à travers le propos biblique, qu'il dit « L'Esprit Saint de Dieu planait sur les eaux, et que ces eaux représentent le désir d'être. » Et que Dieu n'a pas encore créé, mais le désir d'être précède la création, et Dieu fait l'honneur à sa créature de lui proposer de paraître. Avouez que c'est prodigieux, disons. Voilà, vous réfléchirez. Mais ce n'est pas une matière à réflexion, c'est une matière autre. Voilà. Alors, le propos de mon discours, la place de la femme dans le monde et dans l'Église, avec ces précisions, voudrait essayer de montrer un peu que notre vie liée à Dieu offre comme destin de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez ça retenir, je crois. Ensuite, autre matériau, la tradition universelle. Tradition, la question a été posée dans cet après-midi de manière un peu aiguë au milieu des prêtres. Tradition étant l'action du Saint-Esprit ou du souffle de vie à travers tout et en tous. Je ne sais pas si vous acceptez cette définition, mais c'est un peu superficiel pour le moment. Alors, dans la tradition universelle s'inscrit la tradition de l'Église. Et la tradition de l'Église découvre que, écoutez-moi bien parce que ça aura une incidence, la tradition de l'Église est une tradition d'élection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons deux exemples d'élection de ce qu'on appelle vraiment, par exemple, les peuples élus. Le peuple juif est élu. Par qui? Mais par Dieu. Mais pourquoi? Pour engendrer Dieu à l'humanité. C'est une élection. Le peuple, comme disait Saint Cyril d'Alexandrie, c'est le peuple mère de Dieu, le peuple juif quant à l'humanité. C'est une chose intéressante. Et ensuite, l'Église du Christ, elle, également élue. Mais elle est élue pourquoi? Pour engendrer l'humanité à la vie divine. Mais ce sont les deux versants du mystère. Alors, l'Église, mère de Dieu, quant à la divinité, et Marie, elle, à la mère de l'humanité qui va vers Dieu. Voilà, ça, c'est à retenir. Surtout, c'est le propos de l'élection, parce que ça nous obligera à regarder comment procède le Dieu créateur. Ensuite, peut-être un dernier matériau, c'est dans la Genèse biblique qui ouvre à l'humanité son destin. Où est-ce qu'on trouve le destin de l'humanité et sa création? Dans les chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse, il les révèle. Dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la cosmogénèse, où l'homme, qui est microcosme, arrive le septième jour, ou le sixième jour, pardon, où on va les sept jours de la création, et à ce moment-là, l'homme est masculin-féminin. Dieu les créa homme-femme, pas homme et femme, homme-femme, vous pouvez lire, on peut lire le mot androgyne, dans la cosmogénèse, chapitre 1 de la vie. Dans le chapitre 2, qu'on appelle la hiérogenèse, hiéro ça veut dire sacré, eh bien, à ce moment-là, comme dit la tradition, et les gens le soulignaient, le cosmos est le côté de l'homme, est un des côtés de l'homme. La femme a été formée du côté de l'homme. C'est un autre côté. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Eh bien, à ce moment-là, surgit la femme comme personnalité. Dans le deuxième chapitre de la Genèse. Voilà. Retenez ça. Chapitre 3, c'est l'irruption du péché. Alors, pourquoi rechercher particulièrement le rôle ou la place de la femme dans le cheminement de l'être humain et dans l'univers depuis l'origine, en essayant d'aller prévoir l'aboutissement. Parce que l'abandon contemporain du sens du sacré, c'est-à-dire de ce qui va vers Dieu, le sacré c'est ce qui va vers Dieu, a précipité les chrétiens dans une vague sociologie, ensuite a exclu l'Église de son vrai rôle, et ensuite, parce que, comme dit l'apôtre Paul, la nature entière gémit dans l'attente de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, liberté impossible si l'homme et la femme n'assument pas les fonctions que Dieu a prévues et qui lui sont données par le Créateur pour quoi faire, pour lui permettre de faire la conquête de cette liberté glorieuse dont parle l'apôtre Paul. Le Créateur a posé la manière dont l'humanité peut cheminer pour justement entrer dans l'intimité divine et qui est la conquête de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et aussi parce qu'il est salutaire de sortir des lieux communs des diverses époques où, de certains milieux, Dieu ayant donné à Adam, créature sublime, toute possibilité, allez voir les six jours de la Genèse, et plus même, Dieu a donné toute possibilité à l'Adam primordial, et ensuite, il lui a donné dans la deuxième Genèse, deuxième chapitre, une aide pour acquérir, et cette aide c'est la femme, pour acquérir quoi? Pour acquérir la communion avec lui-même, devenir enfant de Dieu, pour acquérir la communion avec l'autre être humain, un autre homme, et pour acquérir aussi la communion avec l'univers. Voilà, alors on voit ici se présenter déjà l'union-communion qui, dans le Nouveau Testament, sera suscitée aux noces de Cana par Marie. Vous vous souvenez des noces de Cana? Il n'y a plus de vin. Alors, on vient le dire à Marie, et puis Marie dit au Christ, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle ne dit rien, non? Mais elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit le Christ à Marie? Femme. C'est intéressant. Il prononce le mot femme, à ce moment-là, il y a un grand F, hein, et il lui dit, en quoi cela nous concerne-t-il, toi et moi? Les traductions bibliques disent, qu'est-ce que ça peut nous faire, à toi et à moi? Oui, c'est un peu banal. On avait discuté beaucoup ça avec le père Irénée, qui était professeur de grec dans notre institut. Voilà, je lui ai dit, c'était, quoi à toi et à moi? En latin, quid mihi et tibi. Ça veut dire, en quoi cela nous concerne-t-il? Vous êtes d'accord avec ça, qui est un helléniste sublime, non? Voilà. Voilà. Alors, mais ce qui est intéressant à repérer, à ce moment-là, aux noces de Cana, le Christ l'appelle femme, il l'appellera femme une autre fois. Quand? Sur la croix, quand l'apôtre Jean, il désigne, voilà, femme, voici ton fils. Bon. Alors, laissons de côté, c'est une remarque. Alors, ensuite, dernière remarque, pour instrumenter dans ce sujet, nous avons besoin de termes, de terminologie, et le français est un peu amputé. Nous avons besoin du terme femme, du terme homme, et du terme de l'être humain, l'humanité, voilà. C'est-à-dire en grec l'anthropos. Voilà. Il y a la difficulté dans la langue française, surtout à donner des difficultés dans le domaine psychologique, ce qui a permis d'instrumenter les comédies de boulevard. Il n'y a pas de terme pour dire l'humanité en général, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'il y a, par contre, en grec, en latin, en russe, paraît-il, et en allemand. Par exemple, en allemand, comment est-ce qu'on dit l'être humain?
Mensch.
Mensch. En anglais. Comment? Mankind. Mankind. En russe, vous savez tous le russe, n'est-ce pas? On dit Tchelovyek, non? Paraît-il Tchelovyek, hein? Oui. En grec, anthropos. Voilà. Et ainsi de suite. Enfin, dernière considération, pour expliquer les seules choses possibles, ce sont les événements contemporains qui marquent d'une manière assez curieuse, le destin du monde. Je ne sais pas si vous accepterez ces quelques réflexions. Nous sommes dans une société où on pratique l'exploitation de la nature. On prend les énergies de la nature et on ne cesse pas de parler de, disons, réception de toutes les énergies qui peuvent provenir de la nature. Mais en même temps, on s'éloigne de la nature et on fait ce qu'on appelle à notre époque du sociétal, n'est-ce pas ? La société, tout à fait, l'homme isolé de la nature, isolé de Dieu, isolé de tous les principes, l'homme est au centre. À ce moment-là, arrivent les manipulations biologiques et on va commencer à naître sans parents, ni homme ni femme. On va pouvoir faire, comme disait Aldous Huxley, de la reproduction des hommes, et après, on n'aura plus besoin ni de père ni de mère. Avec apparition d'un terme que vous connaissez tous, qu'on appelle le genre. On pourra se choisir masculin ou féminin. On peut déjà le faire maintenant, je crois, ça va commencer à s'enseigner dans les écoles. Voilà. Vous aurez le droit de vous choisir. Voilà. Comme disait mon père, tu le sais, il y a trois sexes dans le monde. Vous vivez à Clermont-Ferrand chez Michelin. Les hommes, les femmes et les Auvergnats. Alors ici, mais peut-être ça c'est une réflexion. Voilà. Alors tout ceci, si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire, c'est intéressant à regarder. C'est la grimace de la création accomplie. Parce que le genre, c'est masculin-féminin, voilà. Et c'est, comment dirais-je, vous pouvez choisir, mais vous pouvez être les deux en même temps. Qu'est-ce que c'est? C'est la formation d'un androgyne. Ben, l'humanité va retrouver l'androgyne. Le Christ dit, dans le royaume des cieux, on ne se marie plus. Ensuite, l'homme social. Eh bien, c'est l'homme seul, c'est l'homme du premier chapitre de la Genèse. Il est tout seul, il est homme-femme, il est seul. Il n'a pas d'aide. Voilà. Il est dans la solitude. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide. Ensuite, la nature ne joue aucun rôle eschatologique dans tout ceci, mais non seulement elle joue aucun rôle, mais elle est hostile à ce qu'elle perçoit. Voilà. Et tout ceci dans une atmosphère de mort, la mort se reflète dans l'union des semblables. Vous savez que la vie vient dans l'union des dissemblables. Voilà. C'est un petit peu les réflexions contemporaines. Alors voilà, c'est une des raisons de plus pour essayer de voir comment la disposition a été faite par notre grand Dieu. Voilà. Alors, à l'aide de tous ces matériaux, entrons en matière. Le Créateur pose dans la Genèse. Il pose l'être en 6 jours. C'est selon son bon vouloir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la cosmogénèse, c'est-à-dire l'homme en soi. Il est là, il arrive le 6e jour, il est posé, et en son centre de la création, il y a l'homme. Il arrive comme si vous voulez, comme une sorte de synthèse de toute la création. Et cet être humain, sommet de la création, Dieu le constitue en masculin-féminin, homme-femme, et ce qui fait que tout être humain originel est masculin et féminin, dit androgyne. Et Dieu met en lui deux énergies, deux caractéristiques, c'est crosser et
multiplier.
Ce qui d'ailleurs indique que, avant que Ève ne soit distincte d'Adam, l'homme se multipliait. Donc, engendré, avant l'apparition de la femme, disons, ne nécessitait pas l'union de deux êtres humains. Intéressant. Et quand Marie a engendré le Christ, elle n'avait pas besoin d'homme pour le faire. Et c'est une réflexion qui est intéressante. Parce qu'elle a engendré l'homme nouveau. Donc il convenait, si vraiment c'est un homme nouveau, qu'il fût engendré selon le mode de l'engendrement originel. Bon, ça, je vous laisse de côté, mais vous pouvez réfléchir à ce genre de choses. Voilà. Et le croissant est multiplié, disons, comment dire, est sensible aux entrailles, c'est-à-dire à l'homme de tous les temps et de toutes les circonstances. Regardez par exemple l'obsession de croissance économique contemporaine, d'une part. Et puis, en même temps, dans les études, on peut voir l'obsession de l'accroissement du nombre. D'ailleurs, qui se produit en ce moment, hein. L'humanité prodigieusement nombreuse. Alors, ici, l'homme est la tête du cosmos et il a son être propre, sa vie. Il n'a pas besoin même de se référer à Dieu, il a tout ce qu'il faut pour mettre en route son être et l'être de la création tout entière. Ensuite arrive la deuxième Genèse, Genèse chapitre 2, Dieu pose non pas l'être, mais il pose la vie. C'est-à-dire, on appelle ça dans un langage un peu la hiérogenèse, c'est-à-dire la création vers Dieu, vers le sacré. Alors à ce moment-là, Dieu prend de la poussière de la terre, c'est-à-dire la part, c'est pas la poussière qu'on rencontre dans notre institut, qui n'a pas été balayée depuis un certain temps, n'est-ce pas ? Donc, c'est la partie la plus humble, la partie subtile, la partie la plus faible de la création, sans que c'est aucun sens péjoratif, et il en constitue l'homme, et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui insuffle l'esprit de vie. Et l'homme devient un vivant, ou une âme vivante. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant ? C'est, en tout cas, dans ces circonstances-là, ça me dit, c'est un mouvement vers. C'est-à-dire, l'homme entre en mouvement, vers Dieu, ou bien vers d'autres destinations. Alors, l'homme ayant reçu l'esprit de vie, va vivre comme initiateur de l'univers. Voilà. C'est-à-dire, il va sacraliser l'univers, et il va actualiser ce qui dépasse l'évolution. C'est-à-dire qu'il va dépasser ce qui lui est proposé dans le premier chapitre de la Genèse, où il est simplement synthèse et harmonisateur du monde. Et alors, il va devenir quoi ? Le principe serviteur personnel de l'univers pour que l'univers s'épanouisse et se transcende. Et à ce moment-là, l'univers va se mettre en corrélation comme image de l'homme. Voilà. Alors cette activité, ce service de principe vivifiant ou d'initiateur de la création pose tout le domaine du sacré que nous appelons dans notre terminologie le domaine du pré-éternel, de ce qui est avant tout. Qu'est-ce que c'est que le domaine du pré-éternel ? Le domaine de l'élection dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, avec la vie, et non pas avec l'être, avec le vivant, arrive le domaine de l'élection, qui est le moteur de s'en aller vers Dieu. Alors, Dieu a proposé à l'homme, par exemple, dans la Genèse, de faire élection des animaux. Il lui dit, il lui présente, et il dit, voilà, tu vas les nommer. Alors, l'homme fait, il nomme les animaux, mais après, ça ne l'intéresse plus. C'est intéressant de regarder pour ça. Avec, disons, dans la pensée divine, semble-t-il, derrière l'élection du monde par l'homme, afin qu'il puisse être emmené au-delà même de l'évolution, eh bien, il y a une sorte d'allusion à la formation de l'Église comme un paradis nouveau. Alors, vous voyez, il y a deux formations ici. Il y a la formation de l'être et la formation de l'homme vivant. Qu'est-ce qu'il en est du troisième chapitre de la Genèse, ici, c'est-à-dire du péché ? Dans le premier cas, quand l'homme est à la tête de l'être, et où il a pour vie de synthétiser et harmoniser l'univers, l'homme marchera avec l'histoire vers la ressemblance. Il suivra le Christ. Et à ce moment-là, il découvre la liberté. Ça, c'est l'homme du premier chapitre. Et qu'est-ce que fait le péché ? Le péché ne va pas découler de cette activité, mais il va assombrir et blesser cet homme-là. Dans le deuxième cas, dans le cas de l'épanouissement de la vie, où l'homme va faire élection, où il a été élu par Dieu, et ensuite lui-même fera élection, l'homme pénètre tout par son aptitude, il sert la création, il découvre que la liberté réside non pas à suivre le Christ, mais dans le Christ, et que le péché est le produit de l'acte de la liberté. Voilà. Disons-le un peu autrement, c'est malheureusement un peu trop rapide, la liberté est liée à l'être concret. Et le service ou l'engagement est lié à la vie, à l'homme idéal. Les deux. Liberté pour l'homme concret et service. Bon. Alors, allons un petit peu plus loin. Il y a un deuxième acte créateur qui se produit dans la Genèse, chapitre 2, comme je viens de vous dire. On peut dire ça, c'est une réflexion qui aura été posée ici, dans cet institut, par l'évêque Jean. Dieu opère au sein de la première Genèse, c'est-à-dire celle de l'être et celle de la vie, un deuxième acte créateur, et il le fait non pas dans la conscience d'Adam, mais dans son égarement. Vous savez, il fait tomber un mystérieux sommeil sur l'homme, l'être humain, une torpeur, une extase, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il distingue dans l'homme et la femme. Là, elle arrive, la femme, comme disent les Hébreux, Ish et Isha. Et ici, Adam apparaît, après avoir nommé, disons, l'être vivant. Il ne s'intéresse pas davantage à la création, il ne se consacre pas à une action conforme à celle de Dieu, d'être co-créateur, il ne songe pas à autre que lui-même. Alors Dieu prend le côté d'Adam. Alors, ici, il faudrait le nommer plus largement, il semblerait bien que le côté d'Adam, c'est quelque chose de mystérieux, mais en même temps, c'est le cosmos tout entier. Et alors Dieu prend un côté d'Adam, et il l'édifie en femme. On a ici, comme disait l'évêque Jean, non pas la chute, mais une sorte de préchute. En effet, la chute isolera l'homme d'avec Dieu, principalement. Mais ici, l'homme n'est pas isolé de Dieu encore, mais il s'isole d'avec le reste de la création. C'est intéressant, il y a une sorte de solitude par rapport à la création inférieure. Alors, en séparant l'homme de la femme, ou la femme de l'homme, Dieu produit la femme. Dont Adam s'écrit prophétiquement, voilà, il dit, elle est née de moi, dans ce mésos, comme vous dites, la chair de ma chair, c'est-à-dire, elle est ma fille. Elle est appelée femme, dit Adam aussi, parce qu'elle est prise de l'homme. Ça veut dire, tu es ma sœur. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire, elle est mon épouse. Quelle complication. Oui, c'est-à-dire, remarquablement intéressant, c'est-à-dire que Dieu lui donne de dire, parce que c'est un cri prophétique qui retentit à travers tous les siècles, Dieu lui donne de dire ceci pour l'accomplissement du destin. Voilà. Monseigneur Jean disait plaisamment une chose, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » C'est la première réflexion bourgeoise de l'histoire. Je suis bien dans mes meubles. Bon, on peut dire ça comme ça, mais ça donnait ce type de résultat. Voilà. Mais regardez, trois modes féminins, si on peut dire, s'introduisent. Fille, sœur, épouse. Trois modes. Vous pouvez retenir. Et Adam s'écrit. Alors, on peut résumer tout ça. En voyant elle, qu'est-ce qu'il s'écrit? Toi. Voilà, c'est le toi qui est prononcé. Voilà. Qui contient les trois modes précédents? Ça contient la fille, la sœur et l'épouse, qui retentit à travers toute la création. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est l'éternel féminin qui paraît, et Adam lui dit, je suis ton principe. Tu es ma fille. Tu es une personne, ça veut dire c'est ma sœur, et tu es mon élu. L'épouse, c'est une élue. Voilà, toute la gérogenèse s'est transportée ici, et on voit qu'Adam a voulu rester soi, l'être, mais Dieu, avec la femme, remet le mouvement de la vie en route. Et quand même, Dieu est intelligent, non ? Il a perdu la partie et il la remet en route en confiant à l'homme et à la femme le soin de reprendre ses relations de lui avec la création et la création avec lui. Alors ainsi, Dieu transporte la hiérogenèse, c'est-à-dire ce qui va vers Dieu, de la créature en général, dans la relation entre l'homme et la femme. Voilà. C'est pour ça que quand les gens se marient, on leur dit « Oh, merci beaucoup, vous remettez en route le destin de l'homme. » Voilà. Là, ils ne comprennent pas ce que je veux dire, moi non plus, je ne comprends pas beaucoup. Mais quand même, ils sont assez étonnés. Et c'est ça le vrai mariage. Les fiançailles, c'est à fait autre chose. Voilà. Alors on comprend que divine peut être ainsi, que la sacralisation, c'est-à-dire la mise à part de la femme ou son élection par l'homme, va être porteuse des épousailles de Dieu avec sa créature. Alors on voit surgir le Christ et l'Église. C'est un monde absolument prodigieux. Alors il y a tout ce choix électif est efficace pour transformer, transfigurer si vous voulez, sans Adam, sans le paradis, sans Ève, sans ma femme, sans l'Église catholique orthodoxe de France, voilà, tout ceci, on ne peut pas passer à travers la hiérarchie. Voilà, la transcendance hiérarchique ne peut pas être franchie. Voilà, tout ceci est spirituel, religieux, et s'exerce dans la société, en économie, en amour, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On se retire, on est mis à l'écart pour aller vers le deuxième avènement, entrer dans la possibilité de transcender le monde. Voilà. Et au cœur de ce mouvement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'homme qui est soi, l'être, et puis il y a toi qui arrive. Alors, allons encore un peu plus loin. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Ça commence, hein ? Tant pis pour vous. Alors, voilà. Alors, examinons maintenant, puis je vais terminer là-dessus, peut-être un peu abrupt, l'examen du rôle de la femme avant le Christ et ensuite après le Christ, avec lui. Avant le Christ, comme je viens de vous dire, Dieu sépare l'homme de la femme pour sortir l'être de la solitude. Il lui propose cette épreuve, la communauté. Voilà. Et il fait à l'homme une aide semblable à lui, c'est-à-dire égale, non nécessaire, libre, pour quoi faire ? Pour lui proposer la communauté. Voilà. C'est une épreuve paradisiaque. Première épreuve, c'est celle de la communauté, rapport de l'homme et de la femme. Et Maxime le Confesseur, lui, l'ami d'Emmanuel Ponsoin, nomme cette aide en disant « La femme aide l'homme à grandir vers la ressemblance. » C'est-à-dire, à ce moment-là, elle l'aide à entrer dans la communauté des hommes, mais en même temps, elle lui propose d'entrer dans la communauté avec Dieu. Et ensuite, Maxime le Confesseur dit, elle aide à être dans le monde, c'est-à-dire avec la création. Ce qui veut dire que l'action de l'homme et de la femme vise à humaniser l'univers. Ce qui était proposé à l'homme, qui était placé dans le jardin d'Éden, pour humaniser la création. Donc ici, avec la femme, il arrive que l'homme est poussé vers deux communautés, la communauté divine et la communauté avec la création. C'est la tension vers Dieu et vers le monde, où la femme est simultanément le monde vers l'homme et le monde vers Dieu. Ce qui fait sortir l'homme de la solitude et s'en aller vers, voilà, vers. Le péché arrive. Il obscurcit le destin, mais il ne se produit pas dans la cosmogénèse, dans l'être, mais dans la hiérogénèse. C'est-à-dire, le péché, c'est la rupture d'avec Dieu. Alors, dans ce plan masculin-féminin qui est celui de la cosmogénèse, Dieu accentue les spécifications de chaque sexe. Voilà, la femme apprendra la souffrance de l'enfantement, la tension-soumission à l'homme, et l'homme apprend l'animosité de la nature, et disons tout ceci s'applique indifféremment à l'homme et à la femme. Vous savez, il y a des hommes qui sont les douleurs de l'enfantement. Monseigneur Ruinart raconte que quand il était séminariste, il se mettait des coussins sous la soutane pour être enceint. Oui, non pas qu'il cultivait le genre, mais il cultivait la nécessité d'enfanter, qui est chez l'être humain. Voilà. Ensuite, alors, le péché, lui, ici, on assombrit cet aspect de l'homme. Mais le péché se produit dans le, comment dire, dans la catégorie qui fait dire, qui est vivante, qui fait dire toi à quelqu'un. Pardon. Là où l'homme reçoit le souffle de vie et où il devient une personne. Voilà, c'est ici où on peut dire au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, qui conditionne la cosmogénèse, et bien à ce moment-là, la femme arrive et elle devient la préférée, l'élue, et alors elle est élue pour l'intériorisation et pour, en fait, si on veut prononcer le terme, pour l'acquisition de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que va faire le péché? Il va vider l'élection, la transformer, n'aura plus d'intérêt, blesser l'amour, et remplacer la personne, c'est celle qui va vers Dieu, qui dit toi à Dieu ou à la femme, il va détruire la personne et le remplacer par soi-même. L'homme va imposer sur lui-même, et qu'est-ce qui va devenir sans Dieu? Il va remplacer Dieu par des qualités. Ça, c'est une chose qui pourrait ensuite être prouvée, mais je veux vous emmener un petit peu plus loin. En résumé, la femme aide, pousse l'homme vers la communauté totale, avec la nature et avec Dieu. Et ensuite, vers la distinction absolue de la personne, où on peut dire toi à quelqu'un. Avec le Christ, alors, arrive le nouvel Adam, qu'est-ce que fait le Christ? Il accepte le fait naturel qu'il rencontre dans le monde, c'est-à-dire il accepte l'être tel qu'il le trouve. Vous vous souvenez encore des noces de Cana? Il vient, il est un invité parmi les autres. Voilà. Il n'y a pas de relief. Le relief, nous l'avons, nous, parce que il a fait le miracle que vous connaissez. D'ailleurs, pour revenir à l'évêque Jean, qui avait beaucoup du mot, il dit que le plus grand miracle du Christ à Cana. Transformer l'eau en vin, ça, il savait faire. Puis il a créé le monde. Il a dit, c'est d'avoir eu la patience d'attendre jusqu'à la fin. Bon, voilà. Mais ça, vous pouvez le tenir, c'est l'anecdote. Mais qu'est-ce qu'il fait? On voit, il est là, comme tout le monde, au milieu de ça. C'est-à-dire, il est là, au milieu de la nature, et il trouve l'homme, disons, dans les relations qui sont les siennes, là où le péché assombrit l'être et vide la personne de son contenu. Qu'est-ce qu'il fait le Christ? Il accepte le cosmos, il accepte l'homme en soi, et il accepte et les hommes et les femmes distinctes. Voilà, il accepte tout. Mais lui-même est venu de la part du Père pour refaire l'œuvre paternelle. Il dit, je viens, je fais l'œuvre de mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient pour rénover l'être, c'est-à-dire l'homme masculin-féminin de l'origine, et il revient pour préparer la vie. Repréparer la vie, c'est-à-dire donner à l'homme un destin supérieur. Lequel? Épouser Dieu. Devenir. Voilà. Alors, avec l'homme et la femme, tel que, il va indiquer les directions pour faire progresser l'être, d'une part, et ensuite, simultanément, pour préparer la transformation, et il le fait en donnant à l'humanité une nouvelle aide. Lui qui est le nouvel Adam, qui va être la nouvelle aide. L'Église, c'est intéressant de voir, Saint Basile le Grand, je crois que c'est lui dit, quand est-ce que l'Église est née? Par le coup de lance du centurion qui a percé le flanc du Christ, quand sortit l'eau et le sang qui est tombé sur la terre. Il dit ça, c'est la naissance de l'Église. Alors, vous réfléchirez, mais ça, on ne peut pas tout indiquer. Et alors, la nouvelle aide est là, et dans cette Église qui est le nouvel élu, le Christ a fait une élection encore, sa nouvelle aide, ceux qui y entrent, c'est-à-dire des individus, hommes et femmes, prennent le chemin de la vie et du vivant, c'est-à-dire de la personne, c'est-à-dire vers Dieu, vers la ressemblance. C'est dans l'Église qu'on prend ce chemin. On n'est pas obligé, on peut devenir bourgeois, enfin, ce n'est pas très grave. Et alors là, dans le monde, l'Église est une aide pour retrouver l'être, c'est-à-dire l'humanité en soi, l'humanité royale, en aidant les individus à s'ajuster les uns aux autres, voilà, former les communautés et un édifice en elle-même. C'est l'aspect d'édifice de l'Église que l'apôtre Pierre va beaucoup secourir. Et simultanément, eh bien, ceux qui entrent dans l'Église, l'Église va préparer le renouveau de la nature humaine par l'éradication de la mort. Alors, vous connaissez tout le baptême, la liturgie, etc. C'est-à-dire l'aspect corps du Christ, l'aspect communion avec Dieu, qui va être restauré en y entraînant et le visible et l'invisible. Voilà. Et ici, il y a une nécessité et des hommes et des femmes qui exercent historiquement des fonctions distinctes pour croître et multiplier, c'est-à-dire, et de temps en temps, ces fonctions sont radicalisées. Les femmes ne sont pas des prêtres et les hommes n'engendrent pas les enfants. Voilà. Mais tout ceci, c'est provisoire, c'est pour que le renouveau puisse se produire. Et l'Église va invoquer l'Esprit-Saint pour qu'il vienne dans les narines de l'Adam, de l'être renouvelé, pour acquérir la connaissance de Dieu qui, elle, va permettre de transfigurer. Ici, l'Église, c'est une nouvelle femme élue, source, initiatrice. C'est l'aspect épouse du Christ. Voilà. Et le rôle de l'Église va être de dévoiler les personnes qui vont pouvoir aimer. Parce que je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi, on dit Dieu est amour. Est-ce que l'amour aime? Ça ne veut rien dire, non? Qui est-ce qui aime? Les personnes, le Père aime, le Fils aime, l'Esprit Saint aime. Et l'homme est appelé dans sa personne à aimer. C'est la personne humaine qui est capable d'aimer. L'individu historique, ça c'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors, conclusion de tout ceci, on peut dire la place et rôle de la femme, eh bien, dans le monde, si on regarde dans le monde, la femme est élue. Elle est la préférée. Deuxième chose, elle est une aide pour entrer en communauté. Communauté avec la nature, communauté avec les autres hommes, communauté avec le monde et avec Dieu aussi. Et ceci provoque la transformation et l'apparition de la nouveauté. Alors je ne dis pas le renouveau, pas de retourner à l'ancien, mais le nouveau complet. Et on peut ajouter une petite réflexion de l'évêque Jean, et je termine sur ce genre de sujet. Comme disait Lénine, vous connaissez Lénine, non? Il disait, chez nous en Russie, nous appelons Dieu l'autre. Il dit, et on a besoin de lui en plus. Alors, qu'est-ce que disait l'évêque Jean? Le Christ dévoile le Père. Il dit, mon Père, je vous le fais connaître. Dieu est Père d'abord. Donc, la création commence par la paternité. Il dit, le Christ fait les œuvres de mon Père. L'humanité s'achemine vers Dieu par la filiation, c'est le Christ, voilà. Voilà. Et on dispose des termes comme engendrer, simultanément produire, etc. Alors, après, arrive le sens de la maternité. Et la terre reçoit un commandement, que la terre produise. Vous savez, vous connaissez ce commandement qui est aussi, voilà. Elle est la première à engendrer. N'y aurait-il pas là les prémices d'une autre œuvre qui serait celle non pas du Père, mais de l'Esprit-Saint. Œuvre dont le nom essentiel et ultime est la maternité. Ce qui introduit encore un autre mystère qu'on peut sonder. Je le répète, ce sont des notes. Hein. Après, il faut ouvrir l'éventail pour entrer à l'intérieur. Alors, ça veut dire qu'on peut terminer de cette manière-là. Si l'origine du monde est paternelle, la fin est sans doute maternelle. Merci de votre aimable attention.